Alléluia, je me réjouis vraiment. Comme d'habitude, le Seigneur a tout préparé. J'avais à cœur ce matin de vous parler du thème « Honorer Dieu ». Et bon, c'est avec, voilà, avec crainte et tremblement, parce que voilà, je me dis, mais ils savent déjà comment honorer Dieu. Voilà. Mais j'ai découvert vraiment des pépites dans la lecture de ce livre de John Bevere, « La récompense de l'honneur ». Ça fait partie du parcours d'adoption. Il y a vraiment des pépites énormes dedans. Et puis le Saint-Esprit m'a parlé aussi, en plus. Voilà. Et voilà, il fallait que je vous partage ça. Alors peut-être vous vous direz, mais je sais déjà tout ça, mais j'espère que voilà, que ça pourra vous toucher et nous emmener tous plus loin. Parce que c'est ensemble aussi qu'on honore Dieu, c'est pas seulement chacun pour soi. Voilà. Alors bon, on a chanté, voilà, je veux t'adorer de tout mon cœur. On aurait pu dire, je veux t'honorer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Et c'est-à-dire avec tout mon être, quoi. Alors, honorer, c'est quoi? C'est d'abord reconnaître et accorder de la valeur, considéré comme précieux, comme digne d'être aimé, comme ayant de l'importance. Ensuite, c'est témoigner du respect, de l'appréciation, de l'estime, même pour Dieu, de la révérence. Et puis, c'est se soumettre et obéir à Dieu ou à une autorité. Et il y a un principe qui est vraiment une loi spirituelle. Le principe de l'honneur, c'est dit dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 30. 1 Samuel 2, verset 30. Peut-être on peut l'afficher, je ne sais pas. 1 Samuel 2, verset 30. Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent sont dédaignés. Autrement dit, si on honore Dieu, alors il nous manifeste aussi de l'honneur. Mais si on le déshonore en le méprisant, alors il ne peut pas répondre à nos prières. C'est pas qu'il ne veut pas, mais il ne peut pas. Et il y a plusieurs exemples bibliques qui montrent ça et qui tiennent compte aussi de ce que Jésus nous dit dans Jean 13, verset 20. Oui, Jean 13, verset 20. En vérité, je vous le dis, qui reçoit ou honore celui que j'aurai envoyé me reçoit ou m'honore. Et celui qui me reçoit ou m'honore, reçoit ou honore celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu le Père. Et dans Jean 5, verset 23, c'est dit très clairement, celui qui n'honore pas le Fils, Jésus, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et dans les évangiles, on voit deux exemples notamment de gens qui pourtant n'étaient pas du tout juifs. Un centurion romain, donc un militaire de l'occupation romaine, dans Matthieu 8, alors bon, on va pas l'afficher peut-être, mais parce que ce serait trop long, mais vous pourrez le lire, Matthieu 8, il a témoigné du respect à Jésus. Il a reconnu l'autorité de Jésus sur la maladie. Et à cause de ça, à cause de l'honneur qu'il a manifesté à Jésus, eh bien, il a reçu en retour la guérison de son serviteur. Et puis le deuxième exemple, donc toujours quelqu'un qui n'était pas du tout juif, la femme grecque d'origine syro-phénicienne, donc Syrie et Phénicie. Sa fille a été délivrée d'un démon. Pourquoi ? Parce que cette femme, elle a parlé avec respect et soumission à Jésus. Alors que Jésus semblait la mépriser. Elle a demandé à Jésus la délivrance de sa fille, que Jésus délivre sa fille du démon. Et Jésus, il a répondu, il n'est pas bien de donner le pain des enfants, donc des enfants d'Israël, aux chiens. Autrement dit, il avait l'air de la traiter de chienne. Et donc elle aurait très bien pu se révolter. Mais au lieu de se révolter, elle a simplement dit, oui Seigneur, mais les chiens mangent les miettes qui tombe de la table des enfants. Donc elle a simplement reconnu Jésus et puis demandé que les miettes, quoi. Mais les miettes, déjà, ça lui suffisait parce que c'était déjà énorme. Ça, donc, cette histoire, elle se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 7. Vous pourrez la relire aussi. Et à l'inverse, eh ben, on a les habitants de Nazareth. Donc, Nazareth, où Jésus est né, où il a vécu toute son enfance, son adolescence, le début de sa vie d'homme. Et là, Jésus n'a pas pu faire de miracle. Ça nous est dit dans Marc, l'évangile de Marc, toujours, chapitre 6, verset 5. Ça, on peut peut-être l'afficher, Marc 6, verset 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et qu'il les guérit. Donc il a fait quelques petites, entre guillemets, guérisons, mais il n'a pas pu faire tous les miracles qu'il faisait ailleurs. Partout ailleurs, il guérissait toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités. Les sourds entendaient, les aveugles voyaient, les morts ressuscitaient. Voilà, il chassait les démons, il multipliait les pains et les poissons, il faisait toutes sortes de miracles. Et là, c'est pas qu'il ne voulait pas, mais il ne pouvait pas. La bénédiction était retenue. Pourquoi ? Eh bien, la réponse est dans le début de l'évangile de Marc, chapitre 6, hein, les cinq premiers versets. Mais c'est surtout dans Luc, chapitre 4, versets 16 à 21. Alors, je vais simplement le résumer, hein, parce que ce sera un peu long. Jésus, il a lu dans la synagogue de Nazareth le passage d'Ésaïe 61. Ben, le début d'Ésaïe 61, le verset 1 et le début du verset 2, qui parle des guérisons et des miracles que le Messie va accomplir, hein, que l'envoyé de Dieu va accomplir. Et il leur a dit, aux Juifs qui l'écoutaient, il leur a dit que ce passage des Écritures est maintenant accompli. Donc les Juifs, ils ont très bien compris, ils connaissaient les Écritures, hein. Ils savaient très bien que ce passage parlait du Messie. Donc ils ont très bien compris que quand Jésus leur disait « c'est accompli », ça voulait dire « je suis le Messie ». Ils ont très bien traduit, il n'y a pas eu de souci. Seulement cette parole, ben, ils ne l'ont pas reçue. Pourquoi ? Parce qu'ils ont écouté leur intelligence. Ils se sont dit « mais attends, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis tout bébé, là, et on l'a vu grandir ». Ok, bon, c'était un garçon plutôt bien, enfin voilà, mais quand même, on l'a vu grandir, c'est pas lui le Messie, ça peut pas être lui, c'est pas possible. Ils ont écouté leur raisonnement, leur pensée au sujet du Messie, leur conception de comment devait être le Messie. Ça devait être un grand roi qui allait venir et régner. Et ils n'ont pas écouté le Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que Jésus, il a dit dans Marc 6, verset 4, hein, juste après, « C'est seulement dans sa ville natale, parmi ses parents et parmi les gens de sa maison, qu'un prophète n'est pas honoré. » Parce que la familiarité avec Jésus, ben, ça les a empêchés de l'honorer et donc d'en être bénis. Donc c'est tellement important d'honorer Dieu. Et bon, l'honneur se manifeste dans nos paroles, mais aussi dans nos actions et dans nos pensées. Les paroles ne suffisent pas. C'est dit très clairement dans Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Ce peuple s'approche de moi en paroles et il m'honore avec les lèvres. Je prends une traduction anglaise, hein. Mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Leur louange n'est qu'une tradition humaine, une leçon apprise. L'honneur véritable, il vient du cœur. C'est pas juste des paroles. Quand on chante et tout ça, ben c'est super. Mais si notre cœur n'est pas pleinement dans ce qu'on chante, ben c'est du vent, quoi. L'honneur véritable vient du cœur. Nos paroles doivent refléter les pensées de notre cœur. Sinon, ben c'est de l'hypocrisie et Dieu ne s'y trompe pas. Jésus connaissait les pensées des pharisiens. Il connaît aussi les pensées de nos cœurs. Il connaît nos motivations. On peut faire illusion quelquefois par rapport aux autres, mais pas par rapport à Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait dans Philippiens chapitre 4, verset 8, Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Parce que les pensées, ben, ça va aussi influencer ce qu'on dit. Hein. Les pensées, ben, on finit par les dire à un moment ou à un autre. Et si dans notre cœur, on pense à des tas de choses pas honorables ou critiques des autres, etc., etc., on n'honore pas Dieu. On honore Dieu d'abord par nos pensées. Et puis ensuite, nos pensées donc se traduisent en paroles. Et honorer, bah, c'est aimer réellement, en parole, mais aussi en action. Et l'apôtre Jean nous explique qu'on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas notre frère. Et notre frère, en fait, ça veut dire notre prochain. Ça veut dire tout le monde. Et il conclut, il y a tout un passage de 1 Jean chapitre 4 où l'apôtre Jean détaille ça. Et le verset 21, la fin du chapitre 4, dit que celui qui aime ou qui honore Dieu aime ou honore aussi son frère, c'est-à-dire son prochain. Et dans Philippiens chapitre 2, verset 3 à 5, là c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit aux Philippiens, ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Et Jésus lui-même, il l'a fait. Il nous a estimés supérieurs à lui-même parce qu'il nous estimait tellement qu'il a pu donner sa vie pour nous. Avant même qu'on le connaisse, avant même qu'on lui ait nous-mêmes donné notre vie. Il nous estimait supérieurs à lui-même. Et donc il nous demande de faire la même chose, d'aimer les autres comme lui les a aimés. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Quand on estime les autres plus que soi-même, ben on les honore. Parce qu'en fait, à cause de ça, ben, on leur témoigne de l'intérêt, du respect, on cherche à leur faire du bien par nos paroles et nos actes. Et en fait, on est représentant de Dieu pour eux. Et c'est ainsi, en fait, qu'on annonce d'abord le royaume de Dieu. D'abord par nos actes, pas seulement par un sermon qui ne va pas les convaincre. Et ça ne dépend pas de leur comportement. Même s'ils ont un très mauvais comportement, chaque personne a été créée par Dieu. Chaque personne est créée à l'image de Dieu. Chaque personne a une partie de Dieu en lui. Et à cause de ça, chaque personne a de la valeur, quel que soit son comportement. Jésus est mort pour cette personne. Il a donné sa vie pour cette personne. Que la personne le sache ou non. Et il s'attend à ce que nous-mêmes, on donne notre vie aussi. Hein, Jésus nous a demandé d'aimer les autres comme lui-même les aimait. Ça ne pouvait pas être dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, ça. Parce que dans l'Ancienne Alliance, il y avait la loi, mais Jésus n'avait pas encore fait le sacrifice de son corps, de tout son être. Il n'avait pas encore fait ce sacrifice parfait, il ne vivait pas déjà en nous. Donc, c'était pas possible d'aimer comme Dieu aimait, comme Jésus aimait. Mais maintenant, c'est possible. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça, c'est Romains 5, verset 5. Je répète, l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Jésus vit en nous par son esprit. Et on a juste à lui demander, mais comment lui voit la personne ? Et alors, au lieu de critiquer, de voir tous les défauts, tout ce qui ne va pas dans le comportement, etc., on verra comment Dieu voit la personne On verra ce qu'il a mis dans la personne, ce qu'il a mis de lui-même dans la personne, ce à quoi il appelle la personne. Et on pourra commencer à aimer la personne parce que Jésus l'aime et à l'honorer, à proclamer des vérités sur sa vie. Et ça peut être pour n'importe qui. Hein. Alors bon, moi personnellement, j'avoue, j'ai beaucoup de mal avec une catégorie de personnes, les autorités qui ne se comportent pas correctement à mes yeux, ou qui prennent des décisions que je trouve injustes, ou voilà. Peut-être que vous aussi, hein. Voilà. Mais la parole de Dieu, elle est très claire. Dans Romains 13, versets 1 et 2, Dieu nous dit, donc Jésus nous dit, mais Dieu, que toute personne soit soumise aux autorités dirigeantes. Donc ça veut dire aussi le gouvernement, etc. Hein. Mais pas seulement le gouvernement, ça peut être le maire, les conseillers municipaux, ça peut être, ça peut être le patron, le directeur ou l'employeur, ça peut être l'enseignant, ça peut être toutes sortes de choses, toutes les personnes qui sont en autorité sur nous. Hein. Il y a les autorités civiles, le gouvernement, les policiers, les juges, tout ça, les préfets, toutes les autorités civiles, mais il y a aussi les autorités dans l'église, il y a aussi les autorités dans la famille, le père et la mère, et il y a les autorités dans la société, les patrons, etc. Hein? Toutes les personnes qui sont en autorité sur nous. Donc, pourquoi être soumises aux autorités? Parce que, car, donc c'est la suite de Romains 13, hein, car il n'existe pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Toutes les autorités qui existent ont été instituées par Dieu, donc mises en place par Dieu, même si elles ont été élues ou choisies par des hommes. Ben Dieu n'était pas hors de ce choix, quoi. Il a permis ou décidé ce choix ou cette élection. C'est pourquoi, donc toujours Romains 13, hein, celui qui est rebelle à l'autorité est rebelle à l'ordre que Dieu a établi, et il attire ainsi un jugement sur lui-même. Donc c'est grave. C'est grave. Donc ça veut dire qu'on doit traiter les autorités avec respect, pas à cause de leur comportement, qui peut être bon ou mauvais, hein, mais à cause du rôle que Dieu leur a donné. Parce que Dieu les a établis comme autorités sur nous, et à cause de ça, bah, on doit se soumettre à eux et leur obéir dans la mesure, bien sûr, où ce qu'ils nous demandent ne s'oppose pas à la parole de Dieu. Dieu est quand même là, l'autorité suprême sur nous dans notre vie. Mais quand même, tant que ça ne s'oppose pas à la parole de Dieu, on est censé leur obéir, même si ça ne nous plaît pas. Alors bon, je dis ça, mais moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec certaines choses. Il y a aussi un exemple biblique très très clair, hein. Dieu avait dit dans 1 Samuel 15, verset 11, « Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi. » Donc il avait dit, hein, « C'est bien moi qui ai établi Saül, mais je regrette. » Et pourtant, après ça, pendant des années, au moins 14 ans je crois, après ça, David a dû se soumettre à Saül. Et il a continué à l'honorer, alors que Saül voulait même le tuer. Parce qu'il reconnaissait Saül comme loin de l'Éternel. Même si Saül faisait des fois n'importe quoi, et voilà. Il était un petit peu fou des fois. Voilà. Et il n'acceptait même pas qu'on dise du mal de Saül devant lui, parce qu'il disait, c'est loin de l'Éternel. N'y touchez pas. Il l'a honoré dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actions. Alors moi personnellement, hein, dans ce parcours d'adoption, ben, j'ai été amenée, surtout à cause du livre en question, hein, de John Bevere, Dieu a travaillé mon cœur au sujet d'une personne qui était en position d'autorité sur moi et avec qui j'avais beaucoup de mal depuis des années. Et j'ai pu honorer cette personne de différentes manières, très concrètes. Mais j'avoue que j'ai encore du mal avec des personnes du gouvernement, par exemple. Je prie pour ces personnes, mais j'ai beaucoup de mal à dire au Seigneur, merci pour ces personnes, merci de les avoir placées là. J'aurais plutôt envie de lui dire, mais t'aurais pas pu choisir quelqu'un d'autre. Voilà, donc je suis en chemin, et on est tous en chemin, pour honorer Dieu au travers de tout le monde. Alors si on reprend la définition que j'ai donnée au début, à propos d'honorer, honorer Dieu, c'est quoi? C'est lui accorder plus de valeur et d'importance qu'à n'importe quoi ou n'importe qui d'autre. On va y revenir. Lui témoigner plus de respect ou de révérence et d'estime qu'à n'importe qui d'autre. Et se soumettre et obéir à la parole de Dieu en priorité. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Si on donne plus de valeur à Dieu et plus d'importance à Dieu qu'à n'importe quoi d'autre, ça veut dire qu'on lui donne plus d'importance qu'à notre volonté. On veut faire sa volonté plutôt que la nôtre. Ça veut dire qu'on lui soumet notre calendrier, notre emploi du temps. Donc on lui donne notre temps quelque part, on l'autorise à gérer notre temps. Je dis ça, mais bon, j'ai beaucoup de mal, j'avoue. Ça veut dire aussi qu'on l'autorise à gérer notre budget. On est prêt à lui donner notre argent au-delà même de ce qui est demandé clairement dans la parole. La parole, elle demande seulement la dîme et les offrandes. C'est pas tant que ça. Mais voilà, si on honore vraiment Dieu, on est prêt à lui donner tout ça. Oui, on reviendra après aux dîmes et aux offrandes. Mais d'abord, Jésus dit dans Matthieu 10, verset 37, « Celui qui aime son père et sa mère, son père ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. » Et Dieu, il a reproché au grand prêtre Élie, dans 1 Samuel 2, verset 29, « Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple ?» Vous pourrez lire 1 Samuel 2, le chapitre 1 Samuel 2, parce que vous verrez l'histoire d'Élie, le grand prêtre Élie. Les fils d'Élie étaient des gens pas honnêtes du tout, qui gardaient le meilleur des offrandes pour eux-mêmes, pour manger les taureaux qui étaient sacrifiés, etc. Enfin voilà, pour manger de la viande, s'engraisser avec la viande, n'est-ce pas? Et puis bon, ils faisaient d'autres choses aussi qui honoraient pas Dieu du tout, du tout. Ils méprisaient vraiment les sacrifices. Ils les faisaient pour leur propre intérêt, pour leur propre confort. Et Élie, il en profitait aussi, puisqu'il mangeait aussi le produit des sacrifices. Et la conséquence a été terrible. À cause de ça, donc Dieu a dit ça, pourquoi honores-tu ? Il a repris Élie très sévèrement, et puis il lui a dit que la conséquence, c'est que ses fils mourraient. C'est pas à la légère, quoi. Donc on peut pas s'empêcher de se poser la question, mais est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui a plus d'importance que Dieu dans ma vie ? Ça peut être une personne de ma famille, ou etc. Mais ça peut être aussi n'importe quelle chose à quoi je suis plus attachée qu'à Dieu. Et si c'est le cas, rappelons-nous ce que l'apôtre Jean a dit dans 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. C'est sa promesse. Donc c'est pas pour nous enfoncer, mais c'est pour nous remettre en question, nous repentir et changer, quoi. Et continuer cette œuvre avec le Saint-Esprit, cette œuvre de sanctification. C'est lui qui le fait. C'est pas par nos propres efforts. Nous, on a juste à reconnaître, oui Seigneur, tu m'as parlé, oui c'est vrai, il y a ça dans ma vie qui prend trop de place. Peut-être plus de place que toi, mais en tout cas trop de place. et je veux te le redonner, et je veux m'en repentir et le lâcher et te le redonner. Ça peut être toutes sortes de choses. Donc je vous laisse avec ça. Voilà, chacun. On ne va pas avoir un moment ensemble de repentance, parce que je crois que c'est chacun devant Dieu qui a besoin de s'examiner devant Dieu avec le Saint-Esprit. Pas pour se taper dessus, mais pour se repentir et avancer avec lui. Et puis une autre manière très importante d'honorer Dieu, c'est de lui donner notre argent. Et oui, dans la Bible, les dîmes et les offrandes elles sont données par les Israélites pour trois raisons principales. Subvenir aux besoins des serviteurs de Dieu. Alors dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'était les prêtres et les Lévites. Bon, on peut se dire, il n'y a plus de prêtres et de Lévites. Oui, mais il y a toujours des serviteurs de Dieu. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14, l'apôtre Paul dit clairement, le Seigneur a établi comme règle que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. La deuxième chose, c'est pour subvenir aux besoins du ministère. Un ministère pour Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Ça demande de l'argent. Ça se fait pas tout seul. Et Paul en parle aux Philippiens, donc c'est dans une partie du chapitre 4 des Philippiens, Philippiens 4, versets 15 et 16 et 18. Donc vous pourrez le voir. Il félicite les Philippiens de justement contribuer à cela. Alors on parlait tout à l'heure d'annoncer l'évangile. Bon, peut-être que certains d'entre nous, on n'est pas vraiment évangéliste, mais il y a des choses qu'on peut faire. C'est déjà prier pour ceux qui vont dans la rue, etc., qui parlent à leurs voisins, parler à nos voisins, on peut déjà tous le faire, mais déjà prier pour ceux qui vont dans la rue, faire de l'évangélisation, voilà. Mais aussi subvenir aux besoins de tout ça, aux moyens que ça demande, etc. Soutenir une radio chrétienne ou soutenir un compte, je sais pas, je connais pas trop les moyens technologiques, mais bon, soutenir toutes ces choses-là, financièrement. On peut toujours contribuer d'une manière ou d'une autre, même si on n'a pas ce cœur d'évangéliste. Et puis la troisième chose, c'est nourrir les étrangers, les orphelins et les veuves. Dans l'Ancien Testament, les Lévites avaient cette charge de s'occuper des étrangers, des orphelins et des veuves. Et dans le Nouveau Testament, il est parlé des pauvres, mais c'est ça. Et là encore, c'est pas quelque chose qui a disparu avec la Nouvelle Alliance. Dans Galates 2, verset 10, il en est parlé de se souvenir des pauvres. Donc c'est aussi, tout ça, c'est des manières aussi d'honorer Dieu, de reconnaître que les autres ont de l'importance pour nous, donc j'investis dans la vie des autres, que ce soit dans le ministère ou dans la vie de personnes qui en ont besoin, des pauvres, comme il est dit, parce que je veux en fait investir pour le royaume de Dieu. Je veux semer dans le royaume de Dieu. Et c'est une manière d'honorer Dieu. Et puis, il y a un exemple dans l'Ancien Testament qui m'a toujours un peu bouleversé. C'est dans 1 Roi, chapitre 17, vous pourrez le lire aussi chez vous, 1 Roi 17. Le prophète Élie, il a demandé à une veuve de lui faire une galette. Et c'était dans une période de grande famine. La veuve, elle avait juste ce qu'il fallait pour faire encore un repas, on ne sait pas trop si c'est une galette ou quoi, pour elle et son fils. Et après, ils n'avaient plus rien, ils allaient mourir. Et elle lui avait dit ça. Et lui, il lui dit, fais-moi d'abord une galette. Donc ça paraît, qu'est-ce que tu fais là, Élie, ça va pas. Et Élie a dit à la veuve, si tu honores Dieu en faisant ça, en nourrissant un serviteur de Dieu, Dieu t'honorera, Dieu. Il ne te laissera pas manquer de farine et d'huile. Et c'est ce qui s'est passé, la veuve a obéi, elle a fait la galette en question, et la farine s'est renouvelée sans arrêt dans son pot, Et l'huile, pareil, elle s'est renouvelée sans arrêt, elle continue à couler, couler, couler. Et la veuve a traversé toute la période de famine, je ne sais pas trop combien de temps ça a encore duré, mais sûrement un long temps, sans manquer. Dieu l'avait honorée, parce qu'elle avait honoré Dieu. En lui faisant confiance, en fait, en faisant confiance que la parole de Dieu donnée par le serviteur, c'était la vérité et ça allait s'accomplir. Dans Malachie, chapitre 3, verset 8, Dieu dit « Un homme peut-il voler Dieu ? Pourtant, vous me volez. » Il dit ça aux Israélites. Et puis vous demandez « En quoi t'avons-nous volé ? » Lorsque vous retenez vos dîmes et vos offrandes. Et au verset 10, il dit clairement « Apportez toutes les dîmes dans la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Donc il y ait de quoi pourvoir aux besoins des serviteurs de Dieu, pourvoir aux besoins du ministère et puis aider les pauvres. « Mettez-moi ainsi à l'épreuve. » Donc même si vous avez l'impression de ne pas avoir assez pour vivre, mettez-moi ainsi à l'épreuve, comme la veuve l'a fait avec cette galette-là. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne verse pas sur vous la bénédiction. Et c'est la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place pour la contenir. C'est pas seulement de l'argent, parce que l'argent, ben, y a toujours assez de place, hein. C'est pas ça. Mais dans Proverbe 3, versets 9 et 10, on voit que c'est une bénédiction matérielle, le blé qui remplit les greniers, mais c'est aussi une bénédiction spirituelle, le vin qui déborde. Et ça parle du vin nouveau, de la présence de Dieu. C'est ça qu'on ne pourra pas contenir. Si on honore Dieu, il nous promet non seulement la bénédiction matérielle, mais aussi la bénédiction spirituelle, le vin nouveau qui déborde. Et on sera encore plus ses ambassadeurs. Voilà. Et puis, une autre manière d'honorer Dieu, à laquelle on ne pense pas toujours, bah, c'est d'accorder du crédit à la parole de Dieu, de la prendre au sérieux et de la croire davantage que nos circonstances ou que les mensonges de l'ennemi. Donc là aussi, on est tous en chemin, hein. On a tous des versets qu'on met de côté parce qu'on se dit « Ouh, ça, c'est pas pour moi. Hein ?» C'est vrai pour la guérison que Dieu promet dans sa parole, hein, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Mais c'est vrai aussi pour toutes les promesses de Dieu par rapport à la prospérité, par rapport à toutes sortes de choses. Hein. Les promesses de Dieu pour le salut de notre famille, toutes les promesses de Dieu. On peut les croire et les proclamer jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent dans notre vie, tout comme la veuve a cru la parole de Dieu qu'Élie lui disait, et elle l'a vu s'accomplir, parce qu'elle y a cru. Et puis là, il y a dans le livre de John Bevere, il y a une pépite, je ne peux pas m'empêcher de vous la donner. Dans Ésaïe 55, verset 11, alors ça c'est aussi un verset que je ne comprenais pas trop, enfin voilà, je me demandais un peu ce que ça voulait dire, et là j'ai eu la clé. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Il compare à la pluie et la grêle, etc., la pluie et la neige, ou je ne sais plus, enfin, bref. Ma parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas ou retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté, exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Donc Dieu envoie sa parole et comment est-ce qu'elle retourne à lui? C'est ça la pépite, c'est quand nous, on la proclame par notre bouche. Quand on la croit et qu'on la proclame, c'est comme ça que la parole de Dieu retourne à Dieu. Et alors, elle n'est pas seulement vraie dans les cieux, parce que ça, c'est toujours vrai. La parole de Dieu, elle est éternelle, elle est toujours vraie dans les cieux, mais elle devient vraie sur la terre. Il y a le premier témoin, c'est Dieu qui donne sa parole. Le deuxième témoin, c'est nous qui proclamons sa parole Et alors elle s'accomplit. Peut-être pas toujours immédiatement, mais elle s'accomplit. C'est sûr et certain. Voilà, donc je voulais terminer sur cette pépite. Et puis bon, c'est sûr, c'est pas exhaustif. Hein. Peut-être le Seigneur va vous donner des tas d'autres moyens de l'honorer. Mais voilà, qu'on puisse vraiment avancer ensemble, chacun individuellement, mais aussi ensemble. Parce que c'est aussi ensemble, par l'unité, etc., que le corps du Christ est l'ambassadeur de Christ et répand le royaume de Dieu. En l'honorant, simplement, en étant... Voilà. 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 Donc, amen. Et puis, que chacun d'entre nous, le Saint-Esprit nous aide à mettre en pratique. Amen.